En ce lundi matin, ben, c'est sa rentrée à la radio. Aujourd'hui, on retrouve notre chroniqueur techno qui est enseignant également conférencier, Étienne Bergeron. Bon matin!
Hey, bon matin à toi, bon matin à tous tes auditeurs!
Puis là, je dis rentrée, mais à toi, en tant que prof, ça a déjà eu lieu il y a quelques semaines, là.
Ah, ça a déjà commencé, on a rencontré nos élèves. Je dirais que là, on a pris notre vitesse de croisière. Je pense que même à la maison, les parents remarquent que nos jeunes se lèvent plus facilement. En tout cas, c'est encore drôle, le lever du corps. Là.
Surtout le lundi.
Le lundi matin. Mais oh oui, c'est ça, la rentrée depuis déjà quelques semaines.
Et on se retrouve ce matin, Étienne, avec notre formule des chroniques techno qui sont là une semaine sur deux. Décryptage techno, l'impact des technologies dans nos vies. Puis ce matin, tu es de retour avec une thématique qui va en faire rêver plus d'un. Aller faire un tour dans l'espace.
Bien, je sais pas si cette semaine tu as vu les images de la mission du SpaceX qui a eu lieu à la fin de la semaine dernière, là, que les astronautes sont rentrés dans l'atmosphère en fin de semaine. Fait que c'est un programme qu'on appelle Polaris Down. Je sais pas si tu as vu ça, je sais pas si tu as vu des images aussi. Très impressionnant. Là.
Bien, j'en ai entendu parler. J'avoue que j'ai pas vu les images, mais j'ai entendu un peu que c'était la première personne qui n'était pas un astronaute à se rendre dans l'espace. Si je me trompe pas, c'est quelque chose du genre.
Exactement. Ça l'ouvre, en tout cas, c'est encore un pli vers ce genre de tourisme spatial. Ça, on pourrait en parler du côté éthique, mais effectivement, fin de semaine, ce que j'ai eu comme mission, c'est SpaceX, hein, on connaît le propriétaire, c'est Jared Isaacman, c'est un des anciens ingénieurs qui travaillait pour SpaceX, qui est maintenant un milliardaire, qui a financé, écoutez, c'est des belles vacances, il a financé ça à lui et trois autres personnes. Puis pourquoi ce matin, je tiens à en parler, c'est qu'il y a eu beaucoup de premières dans cet aspect-là, parce que la capsule ou le programme, en fait, de Polaris Down est allé jusqu'à 1500 km d'altitude. Ça, c'est très loin. Quand on sait que la station spatiale internationale est aux alentours de 300 km, je dis aux alentours, là, parce que elle est tout le temps en train de bouger, c'est l'éthique et tout ça, et même, c'est ça, l'apogée de la capsule, 1500 km, ça, c'est la dernière fois qu'on est allé aussi loin de la Terre. Quand c'était des programmes Apollo pour aller sur la Lune. Fait que c'est assez impressionnant. Un autre objectif aussi qu'on a vérifié là, c'est les effets des radiations. Hein? Parce qu'on sait que quand on est dans l'espace, on a plus de radiation qu'on est sur Terre, parce que sur Terre, on est protégé par une magnétosphère. Hein? C'est comme un gros aimant qui nous protège des rayons nocifs du Soleil. Parfois, peut-être cet été, il y a eu des auditeurs qui se sont rendus compte que les UV, les rayons nocifs, ont pu se rappeler fort, hein? Les coups de Soleil. Ben, c'est sûr que dans l'espace, il y a plus de ces rayons-là. Donc, on testait une nouvelle combinaison parce que, justement, les astronautes ont eu la chance de faire une sortie extravéhiculaire. Donc, ils sont sortis dans l'espace en petite combinaison. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je sais pas si tu as l'occasion de voir les images. On était peut-être des gros scaphandres d'astronautes. Là, c'était tout petit. On aurait dit un petit manteau d'automne. Là, je me dis, OK, c'est quand même sûrement extrêmement efficace comme combinaison. Mais le design a été revu par un designer vraiment de fashion, de mode pour avoir une belle combinaison pour nos astronautes dans l'espace. C'est assez particulier quand on a prévu le côté fashion jusque dans l'espace. On reconnaît le propriétaire de SpaceX, Elon Musk, dans tout ça. Là.
Ben effectivement, puis c'est parce que ça fait rêver aussi, Étienne, c'est que ça amène un peu l'accessibilité à l'espace, à un peu monsieur, madame, tout le monde. Bon, faut quand même avoir les poches pas mal remplies pour pouvoir se permettre ce genre de choses-là, mais c'est impressionnant de dire que la technologie avance sur Terre, mais elle avance aussi dans l'espace.
Ben, ça s'inscrit un peu j'ai l'impression que ça s'inscrit dans toujours plus loin, hein. C'était Buzz Lightyear qui disait ça, toujours plus loin, toujours plus vite. Évidemment, il y a beaucoup de gens sur la planète Terre qui cherchent des sensations fortes, hein. On pense à plusieurs milliardaires, bon, ils sont pas si nombreux, mais ils sont suffisamment riches pour être capables de faire parler d'eux. Fait que c'est ça qu'on cherche toujours comme l'expérience, hein. On se souvient du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, qui est allé sur la station spatiale. On a un Russe plutôt qui était allé aussi. Fait, le tourisme spatial n'est pas assez balbutiement, mais là, on est en train vraiment de parler de démocratiser ou de rendre ça accessible. Mais il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas juste du tourisme là-dedans. Je te parlais d'aller plus loin de la Terre pour vérifier les radiations. On voit qu'il y a de la recherche aussi dans ça. Puis c'est pas la seule, hein. C'est pas le seul programme. Il y a aussi le programme Artemis, que peut-être qu'il y a des auditeurs ont entendu. Bon, il y a eu un lancement en 2022 avec un vol sans équipage. Il y a Artemis 2 là, qui est prévu pour septembre l'an prochain. Pour un premier vol habité, hein. Ça c'est une capsule qu'on envoie faire le tour de la Lune et revenir. On y va par étapes. Puis Artemis 2, ben on sait qu'on a un astronaute canadien qui va être présent dans la mission, là, Jeremy Hansen. On en a parlé l'an passé, là, il y a peut-être, je dirais, un an et demi, parce que bon, quand on a dévoilé que c'est un astronaute canadien, ben ça nous intéressait. Hein. Toujours, on se souvient peut-être de Julie Payette ou Chris Hadfield, par exemple. Ça marque beaucoup l'imaginaire. Et l'objectif en 2027, c'est de retourner des humains sur la Lune avec le programme Artemis 3. Et ce que la NASA souhaite faire, c'est d'envoyer une femme, parce que je ne sais pas si tu le savais, mais aucune femme est allée sur la Lune dans le programme de la NASA. Alors, moi, je mets une petite gageure là, de 25 sous que le prochain humain qui va déposer le pied sur la Lune est probablement une femme. Puis, disons, mon petit côté féministe dirait « Enfin, une femme sur la Lune ».
Bien, j'avoue, parce que tu sais, tu as nommé le nom de Julie Payette. Julie Payette, ça a été une astronaute qui a marqué les esprits, justement, par son parcours, justement, comme astronaute. Mais effectivement, que c'est pas parce que c'est ça que tu fais dans la vie que tu vas toutes les semaines sur la Lune, là.
Exact. Puis d'aller déposer, ce serait un message aussi. On s'entend que c'est la science et découvrir nos origines et tout ça. Mais tout de même, là, tu sais, de dire, ben écoute, 51% de la population mondiale, ce serait bien. Mais il y a beaucoup de programmes. Hein, là, le Polaris Down, qu'on disait, le programme Artemis, il y a de nombreuses missions qui s'en viennent aussi. Je pense en fin 2024, là, dans les prochains mois, il va y avoir l'Europa Clipper. Europa, qui est une lune importante de Jupiter, qui serait constituée uniquement de glace. Hein, c'est ce qu'on présume. Sur cette lune-là, il y a des volcans de d'eau, c'est vraiment hallucinant comme genre de milieu, mais on se demande s'il y a de la glace, est-ce qu'il y a de l'eau, hein? Fait que là, il y a une mission importante qui s'en va là. Et bien sûr, peut-être, là, je sais pas si les auditeurs regardaient, toujours dans la famille de SpaceX, le vaisseau Starship qui devrait fonctionner, parce qu'il fonctionne, mais il n'est pas tout à fait au point, là. Mais Starship, qui est le plus gros vaisseau construit dans l'histoire, l'idée, c'est vraiment d'envoyer d'ici 2030 des astronautes, non pas sur la Lune, mais sur Mars. D'ici 2030, c'est très ambitieux. J'ai hâte de voir si la gang SpaceX vont réussir ça. C'est quand même juste dans comme 5 ou 6 ans.
Oui, ça s'en vient très, très vite. Puis ça met beaucoup de pression sur la technologie parce qu'il faut qu'elle soit capable de toffer la run, comme on dit en bon québécois.
Oui, puis il y a beaucoup d'études parce que, tu sais, c'est quand même un voyage aller sur Mars, c'est 2 ans et demi, hein. Et 2 ans et demi dans une mini fourgonnette à 3 ou 4 membres d'équipage, disons qu'on peut se tomber sur les nerfs. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tests psychologiques, hein. L'humain va être poussé à ses derniers retranchements. Point de vue physique aussi, hein, je parlais des radiations, on sait que c'est dur sur le corps, il y a beaucoup de radiations, donc c'est autant psychologique que physique, fait que c'est très ambitieux 2030, plusieurs parlent plus de l'horizon 2035, et ça c'est pour la NASA, hein, évidemment on est encore dans un genre de course à l'espace 2.0, parce que peut-être dans les prochaines semaines, je pourrais parler des programmes européens ou des programmes chinois, sont tous aussi très ambitieux. Donc, évidemment, on veut, les Américains, de leur côté, ne veulent pas se faire damer le pion pour faire envoyer un humain sur Mars et que ce serait une autre nationalité qu'un Américain, disons. Disons qu'ils essaient de travailler très vite. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Je pense au Starliner, je ne sais pas si présentement, peut-être les auditeurs ont entendu parler, mais il y a 2 astronautes qui sont coincés dans l'espace. Hein. Ils devaient être là 2 semaines.
Ah oui.
Finalement, ils vont revenir juste en février. Donc, passer de 8 jours essentiellement dans l'espace, dans la station spatiale internationale, ils vont passer 8 mois. C'est sûr que ça change le party de Noël.
Ben, écoute, Boeing l'apprend à la dure dernièrement avec toutes les histoires qui entourent ces avions. Ben là, il y a encore eu des problèmes avec ces astronautes. Fait que eux autres aussi doivent trouver ça un petit peu ordinaire, là.
Ben, c'est particulier, là. Je disais, évidemment, la station spatiale est est prévu là, pour avoir 6 personnes. Donc, il y avait suffisamment. Ils ne sont pas obligés d'être 2 dans le menu pour dormir. Ils sont obligés de couper dans le thé glacé. Là. Mais ça reste quand même que c'est des situations assez inhabituelles, surtout quand on voit que ça va être non pas Boeing qui va aller chercher les astronautes, mais ça va être SpaceX. Donc, ça fait juste démontrer que malgré la sophistication de tous ces appareils-là, ça reste des missions qui sont dangereuses, qui sont périlleuses. C'est pas évident d'aller dans l'espace. Ça coûte une fortune. Puis il n'y a pas grand monde sur la planète Terre qui peut se targuer d'aller dans la Lune, dans l'espace d'une façon quasi hebdomadaire et tout ça. Donc, SpaceX est vraiment en train de développer cette expertise-là avec les fusées réutilisables, hein, ce qui est la grande force de la compagnie, de réduire les coûts puis d'être plus rapide que ses concurrents. C'est en train de prendre une longueur d'avance. Mais c'est sûr, moi, j'ai une petite pensée pour les deux astronautes. Je sais pas quel genre d'emploi du temps qu'ils avaient prévu, mais passer de 8 jours à 8 mois, ça change un petit peu l'horaire du temps. Mais évidemment, ils vont être bien accompagnés. Peut-être que pour un astronaute, c'est même peut-être le plus beau moment de sa vie, de dire « Ah, je vais être là juste 8 jours, puis finalement, je vais être là 8 mois. » Mais disons, en tout cas, j'espère que leur couple était solide, qu'ils n'ont pas des enfants à bon âge, parce que « Et où, maman? » Ben, elle n'est pas si loin, mais elle est loin dans l'espace. Donc, à suivre, mais ça reste que l'important, c'est que, justement, l'équipage est en sécurité. Mais ça reste quand même assez fascinant de voir tout ça, de voir l'agence européenne, de voir comment SpaceX, Boeing ou même Blue Origin, qu'on a pas parlé. Mais imaginez, hein, c'est quoi le futur? Est-ce qu'on s'en va vers d'autres, dans l'espace, vers d'autres astres, peut-être d'autres planètes? De plus en plus, on y croit, puis je pense qu'on va voir ça de notre vivant. Plusieurs auditeurs peut-être disent « jamais on va voir ça aller sur Mars et tout ça ». Mais quand on parle de l'horizon 2030-2035, ben ça devient quelque chose qui est envisageable. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'agences qui travaillent très fort pour être les premiers à aller sur une nouvelle planète. Hein,
oui, effectivement.
Sur une planète.
On a vu la course vers la Lune. Ben là, ça va être la course vers Mars dans les prochaines années. Ouais. Puis on aura l'occasion de suivre ça. Puis dans l'actualité, c'est toujours impressionnant d'avoir l'occasion de voir des images, d'entendre parler de ces expériences spatiales qui ont lieu. Fait que c'est toujours très intéressant à suivre. Puis, Étienne, tu as peut-être un petit truc là, pour revenir justement à notre routine. On parlait de la rentrée scolaire, tout ça. Là, un petit truc pour réduire le temps d'écran cette semaine?
Oui, réduire le temps d'écran, je souhaite sincèrement que les auditeurs savent comment réduire le nombre de notifications. Hein, moi, je sais pas ce qui se passe depuis quelques mois. Cet été, la quantité de fois que je me fais demander de dire « Est-ce que vous voulez recevoir une notification? » Ça, c'est un très bon truc pour les auditeurs. Si on veut réduire son temps d'écran, si on veut être capable de se concentrer et d'être avec les gens qui nous entourent, ben c'est une des façons simples. Dans les paramètres, là, dépendamment sur quel appareil téléphonique que vous êtes, mais dans les paramètres, de réduire les notifications puis de dire quand on veut aller chercher nos messages, on n'est pas obligé d'avoir une petite alarme ou un petit son qui nous rappelle à l'ordre sur notre écran. Donc, réduire les notifications est un très, très bon truc pour réduire son temps d'écran. Puis être capable aussi, d'une certaine façon, d'être plus productif. Hein? Parce que quand on est dérangé, on reçoit toujours des petites alertes sonores ou une petite alerte visuelle. Bien, ça nous fait décrocher. On est moins concentré sur notre travail. On est moins concentré sur la route. On est moins concentré pour les gens qu'on aime. Donc, essayer de couper au maximum les notifications, ça aide à réduire son temps d'écran.
Et c'est honnêtement, Étienne, le plus beau cadeau que je me suis fait de réduire mes notifications. Ça donne une paix d'esprit supplémentaire.
Bien, c'est fou parce que chaque application veut nous donner des notifications pour nous ramener sur leur plateforme. Fait que parfois, c'est des notifications qui sont importantes. Là, on s'entend, là, nos enfants pour X, Y raison, mais parfois, bien, c'est des applications un peu plus médias sociaux, même des jeux, ceux qui installent des petits jeux du Candy Crush de ce monde, mais dire « Hey, t'as un petit nouveau coffre », mais ça fait beaucoup de notifications, ça fait beaucoup de messages, puis après ça, notre cerveau, lui, est dérangé. Hein. Que ce soit pertinent ou pas pertinent comme notification, notre cerveau a décroché, puis ça prend, on présume à peu près en 12 et 15 minutes de temps pour se réapproprier notre tâche. Fait que ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on est dérangé, ça nous prend 12 minutes avant que notre cerveau soit capable de se remettre efficacement au travail. Fait qu'à chaque notification, on part à zéro, ben ça peut faire des journées des journées pas très productives.
Oui, effectivement que ça doit faire baisser la productivité. Ben, Étienne, je le rappelle, tu es enseignant également, conférencier derrière la conférence Accro mon ado. Ben, on va se reparler dans deux semaines.
Ben, ça fait plaisir, puis je vous souhaite une bonne rentrée radiophonique, puis un beau bonjour à tous les auditeurs et à ton équipe.
Merci, une excellente journée. Bye-bye.